Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Basimango.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, le début hier à Béni du Forum provincial sur la problématique des rebelles des ADF. Occasion pour les participants de réfléchir sur des stratégies à même de mettre fin à ce mouvement ougandais affilié aux islamistes qui tue sur le sol congolais depuis 2013. Forces de sécurité congolaises, ougandaises, MONUSCO et société civile sont toutes présentes. Dans l'actualité aussi, la réouverture de la frontière entre la RDC et le Burundi à Uvira depuis hier. Un sujet de joie pour les opérateurs économiques qui plaident pour moins de tracasseries. Et malgré l'entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise le 18 février dernier, les hostilités n'ont pas cessé dans l'est de la RDC. Ce sujet était au centre de l'émission Dialogue entre Congolais hier soir. Vous écouterez les interventions des invités. Bienvenue à cette édition du journal qui part du Nord Kivu. Le forum provincial consacré à la problématique des rebelles des ADF s'est officiellement ouvert hier matin à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Les participants dans les forces de sécurité congolaises et ougandaises, la MONUSCO ou encore la société civile émettent le vœu de voir enfin des stratégies concrètes pour en finir avec ce mouvement rebelle qui a provoqué la mort des milliers d'innocents depuis 2013. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Nous ne lâcherons rien. C'est par ces mots que le gouverneur du Nord Kivu a conclu son allocution ce lundi à l'ouverture du forum de la paix à Beni. Pour le général Evariste Kakule-Somo, initiateur de ce forum, la population de cette partie du territoire congolais mérite de vivre en paix.
Les ADF continuent de tuer des femmes, des enfants, des personnes de troisième âge. Nos soldats tombent sous le drapeau. Des casques bleus de l'ONU ont versé leur sang sur ces terres. Tout ceci à cause des ADF. Habitants du Nord Kivu, je veux vous le dire simplement. Nous ne lâcherons rien.
Pour le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bouji Sangara, qui a ouvert les travaux, ce forum est considéré comme un élan de recherche des solutions durables. De son côté, la chef de la police de la MONUSCO, représentante spéciale adjointe intérimaire du secrétaire général des Nations Unies, chargée des opérations, a réitéré l'engagement de la mission des Nations Unies aux côtés des autorités congolaises pour éradiquer ces phénomènes pour une meilleure protection des civils. Mamouna Oedraougou.
La MONUSCO reste pleinement engagée aux côtés du gouvernement congolais. Nous continuons à travailler en coordination avec les FADC, la PNC et l'ensemble des services de sécurité afin de vaincre cet ennemi commun.
Ce forum de trois jours va se clôturer ce mercredi. Marc Marofimbo, Beni, Radio Kapi.
Et en lien avec la tenue à Beni au Nord Kivu du forum provincial consacré à la problématique des ADF, une première à l'échelle provinciale et nationale, les attentes des populations sont nombreuses. Les participants espèrent que ces assises déboucheront sur des stratégies concrètes et durables pour la neutralisation définitive de ce groupe armé allié à l'État islamique et actif au Nord Kivu et en Ituri. Que retenir à ce sujet, Martial Papi Mokeba?
Parmi les participants à ces forums figurent des femmes tuées, enlevées ou réduites à l'état d'esclavage sexuel dans les campements de ces rebelles. Les femmes sont considérées comme les premières victimes des ADF. Justine Massika, activiste des droits des femmes au Nord Kivu et participante au forum, souhaite que ces assises aboutissent à une prise en compte de la dimension communautaire dans la lutte contre les ADF.
Les armes ont des limites. Les armes ne sont pas une solution. Puisque les opérations étaient des opérations armées. Mais pour chercher la vraie paix, il faut une paix communautaire. Il faut que la communauté soit vraiment impliquée dans la recherche de la paix, puisque c'est cette communauté qui souffre.
De son côté, John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, espère l'adoption d'une stratégie commune et inclusive pour mettre fin à l'activisme des ADF.
Les communautés vont sensibiliser leurs membres de ne pas continuer à collaborer avec les ADF. Notre attente est que ces ADF doivent être éradiqués. Ça fait maintenant plus d'une décennie qu'ils sont en train de tuer sauvagement la population.
Les travaux du forum se clôturent ce mercredi. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Avant de quitter le Nord Kivu, sachez qu'au moins 19 ménages ont été victimes de cambriolages perpétrés par des hommes armés la nuit de dimanche à hier lundi au village en Kokwe. C'est dans la chefferie de Baoundé, territoire de Massissi. Selon des sources locales, les assaillants dont l'identité reste inconnue ont fait incursion dans ce village sémant la panique. Des tirs d'armes légères ont été entendus plongeant Kokwe et l'agglomération voisine de Chacha dans une vive inquiétude. Plusieurs biens de valeur ont été emportés et certains habitants ayant blessé légèrement. Nos sources déplorent cet incident qui survient au lendemain d'une distribution d'assistance en cash organisée à Kitova par l'église du Christ au Congo ECC au profit des personnes vulnérables de la zone. 3 160 000 $ américains, c'est l'enveloppe allouée par le Fonds de cohérence pour soutenir les retours des déplacés et la stabilisation des zones en conflit. Ce programme vise à appuyer le programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire, PDDRCS, ainsi que la transition de la MONUSCO. Le lancement officiel de ce projet a eu lieu hier lundi à Bounia, en présence de plusieurs responsables étatiques et onusiens. Quelles sont les parties de la province qui vont bénéficier de ce projet, Jean-Claude Loki?
Ce projet exécuté par un consortium d'organisations dont le PNUD qui en assure le leadership, l'OIM, l'ONU Femmes, l'UNICEF et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme cible trois territoires gravement affectés par les conflits armés, Djougou, Irumu et Mahagi. Plusieurs activités seront menées par les différents acteurs afin de créer les conditions propices au retour de la paix dans cette province dévastée par les violences des groupes armés. Axel Kitoga, responsable du bureau du PNUD à Bounia, donne plus de précisions.
Il s'agit essentiellement d'œuvrer aux côtés des autorités provinciales pour appuyer les efforts qui sont déjà consentis en vue de soutenir justement le PDDRCS, mais également travailler de concert avec toutes les parties prenantes afin de permettre le retour de la sécurité, à favoriser également un climat de cohabitation, de cohésion sociale entre les communautés d'accueil, mais surtout aussi les combattants qui proviennent des groupes armés. Il va falloir leur apporter le soutien nécessaire de pouvoir réintégrer leur communauté.
Les résultats attendu de ce projet pourrait marquer un tournant dans la stabilisation de l'Ituri en permettant non seulement le retour des déplacés mais aussi en favorisant un climat de paix, estiment certains observateurs. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, cette bonne nouvelle du côté d'Uvira, les autorités de la République démocratique du Congo et du Burundi ont convenu de rouvrir hier lundi la frontière commune entre Bujumbura et Uvira. Le trafic a immédiatement repris à la grande satisfaction des populations de deux pays voisins. Les petits commerçants se disent particulièrement satisfaits. L'ouverture des postes frontaliers de Kavimvira et Gatumba constitue un soulagement majeur pour la population d'Uvira au Sud-Kivu, restée coupée de Bujumbura, la capitale burundaise, depuis l'occupation temporaire de la ville par l'AFC M23 le 10 décembre dernier. La Fédération des entreprises du Congo fait qu'Ouvira exprime à la fois satisfaction et inquiétude. Les tracasseries douanières devraient cesser, souligne un opérateur économique influent au sein de la Fédération qui a souhaité garder l'anonymat. On l'écoute au micro de Jean Kassami.
L'ouverture de la frontière Kavimvira et Bujumbura apporte beaucoup de soulagement à la population de Vira, surtout aux petits commerçants transfrontaliers qui s'approvisionnent au Burundi, ils vendent au Burundi. Avec la fermeture de la frontière, ça avait causé beaucoup de difficultés. Maintenant, quand la frontière est ouverte, vraiment ça apporte un soulagement à la population de Vira, tellement qu'on est en train de demander au gouverneur de pouvoir lutter contre les tracasseries, lutter contre la multiplicité de services au niveau des frontières, pour qu'il y ait les services acceptés qui vont œuvrer à la frontière. Il faudrait qu'il y ait facilité de traverser, qu'il y avait beaucoup de taxes à payer. C'est ce qu'on est en train de solliciter au niveau des autorités provinciales, au niveau des autorités de la mairie.
Le suivi de la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis est au centre de la mission du conseiller Afrique auprès de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. Selon le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, cette visite de John Tomaszewski auprès de la première ministre Judith Suminwa visait à évaluer les avancées enregistrées par la partie congolaise. Sur son compte X, Patrick Muyaya a indiqué ce lundi que cette mission s'inscrit dans le prolongement de la visite du président Félix Tshisekedi du Congrès américain. Elle porte notamment sur la mise en place d'une feuille de route, la création d'une task force et la préparation de la ratification de l'accord lors de la session parlementaire de mars. On écoute John Tomaszewski dans cet extrait proposé par Alain Irung.
La chose la plus importante portait sur trois choses. D'abord, c'était de communiquer sur l'importance de cet accord stratégique bilatéral signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le partenariat sécuritaire et économique. En tant que membre du Congrès, travaillons quant à l'implémentation pour la mise en œuvre de cet accord. C'était également l'opportunité pour moi de partager la perspective des États-Unis sur cette question. Le deuxième point pertinent, c'était par rapport au conflit en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais également la crise humanitaire, les défis que rencontrent les peuples sur terrain et tout ce qui englobe le processus de paix.
Le président de la République a nommé dans une série d'ordonnances lues hier lundi à la télévision nationale plusieurs mandataires à la tête d'entreprises publiques. Blaise Londolé et Vincent Fouta ont été désignés respectivement directeur général et directeur général adjoint de la régie de voies aériennes RVA. Trifon Kinkiemoulumba a été reconduit dans ses fonctions de président du conseil d'administration de cette régie. Blaise Londolé succède à Ngoma Ambaki, suspendu de ses fonctions par le ministre du portefeuille à la suite d'un dysfonctionnement survenu à l'aéroport international de Njili. À l'autorité de régulation du secteur de l'électricité AR, le professeur Jean-Marie Béa est nommé président du conseil d'administration. Soraya Aziz prend la direction générale assistée de Marco Kouyou, nommé directeur général adjoint. Par ailleurs, Baraka Kabemba est nommé directeur général de la Gécamines, principale entreprise minière du pays, tandis que Deogracias Ngeli Masoudi devient président du conseil d'administration de cette société relevant du portefeuille de l'État. Dans la province du Sankuru, clôture hier lundi à Lusambo de l'opération de réception de dossiers pour le poste de gouverneur et de vice-gouverneur de province. Le bureau de réception et traitement des candidatures du secrétariat provincial de la Commission électorale nationale indépendante CENI a fermé ses portes autour de 16h heure locale. 11 dossiers dont 5 des femmes ont été reçus, affirme le secrétaire exécutif provincial de la CENI à Lusambo. Explication avec Esther Dalafina.
Au total, 10 dossiers ont été enregistrés. Parmi elles, 3 femmes, dont une ancienne ministre du genre, famille et enfants. 2 anciens gouverneurs figurent également sur la liste. Une présence qui alimente déjà les débats sur ce qu'ils comptent proposer de nouveau après leur précédent mandat. 4 députés provinciaux ont déposé également leur dossier, l'un pour le poste de gouverneur titulaire et 3 autres pour celui de vice-gouverneur. La suite du processus électoral prévoit des ajustements possibles. Possible ajout, retrait ou substitution des dossiers avant la publication le 4 mars prochain de la liste provisoire des candidats. Initialement prévue le 24 mars, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Sankuru se tiendra finalement le 7 avril prochain selon le calendrier réaménagé de la CENI. Au-delà des chiffres, cette échéance électorale cristallise les enjeux politiques locaux, retour d'anciens dirigeants, émergence de nouvelles figures et participation féminine encore limitée mais symbolique. Les députés provinciaux auront la responsabilité de trancher sur l'avenir de la gouvernance dans une province où les atteintes citoyennes demeurent fortes. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Comment renforcer le processus de digitalisation de l'organisation de l'examen d'État en République démocratique du Congo? Pour y répondre, le gouvernement organise du 23 au 26 février à Kinshasa un atelier consacré à la modernisation et à l'optimisation de la gestion des données liées à cette épreuve nationale. Selon le vice-ministre de l'Éducation nationale, ce forum s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du plan quinquennal du système éducatif 2024-2029 qui accorde une place importante à l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Plus de détails avec Blaise Ndongramayanda.
L'inspecteur général à l'éducation souligne que cet atelier traduit l'engagement contenu du gouvernement congolais à améliorer l'organisation des épreuves certificatives nationales, notamment l'examen d'État qui consacre la fin du cycle secondaire en RDC. Hubert Kimboza indique que la modernisation de la gestion des données de l'examen d'État vise à réduire les délais de traitement et de publication des résultats. Il ajoute que cette approche permettra également de minimiser les erreurs humaines et renforcer la traçabilité et la sécurité des informations tout en améliorant la coordination entre les différentes instances impliquées dans la gestion de l'examen d'État. De son côté, le vice-ministre de l'Éducation nationale estime que la digitalisation de l'examen d'État représente un levier incontournable pour garantir la transparence, la fiabilité et la rapidité dans le traitement des données. Deo Kazadi.
Ces efforts témoignent de la volonté de l'ordre ministre de renforcer l'efficacité de l'organisation de l'examen d'État et des autres évaluations certificatives dans notre pays.
Ce forum de 3 jours réunit les différents acteurs qui prennent part dans la gestion des épreuves certificatives à travers le pays, notamment des inspecteurs principaux provinciaux, des directeurs des provinces éducationnelles, ainsi que d'autres responsables techniques de ces secteurs.
Actualité internationale.
Le Tchad a annoncé hier la fermeture de sa frontière avec le Soudan jusqu'à nouvel ordre, suite aux incursions répétées de groupes armés impliqués dans la guerre qui sévit au Soudan voisin. Dans un communiqué rapporté par africanews.fr, le gouvernement tchadien a assuré vouloir prévenir tout risque d'extension du conflit vers le Tchad. Cette décision intervient après l'attaque le week-end de la ville soudanaise d'Altina par des forces de soutien rapide FSR. Samedi, les paramilitaires ont revendiqué la prise de cette localité du Darfour située à la frontière avec le Tchad.
L'invité.
Malgré l'entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise le 18 février dernier, les hostilités n'ont pas cessé dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel publié vendredi dernier, l'armée congolaise a dénoncé des attaques systématiques menées par la rébellion de l'FCM23, soutenue par les forces rwandaises au nord et au sud Kivu. Ce sujet était au centre de l'émission Dialogue entre Congolais hier soir. On écoute un extrait de différentes interventions des invités au micro de Guy Maté.
Willy Meshiki, vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes président du parti politique UNANA, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous analysez cette poursuite des combats en dépit du cessez-le-feu proposé par le président angolais?
Oui, nous avons une fois de plus été très déçus par les intentions malveillantes de l'armée rwandaise, comme vous le savez très bien. Ce cessez-le-feu, d'abord, a été très mal négocié. Nous croyons sincèrement que aussi longtemps qu'on n'aura pas associé ceux qui sont sur la première ligne de front, notamment les Wazalendo, aucun cessez-le-feu ne pourrait avoir lieu. Rappelez-vous que plusieurs cessez-le-feu ont été annoncés depuis Doha, depuis Luanda, Washington. Aucun cessez-le-feu n'a tenu, puisqu'on n'a pas pris en compte les acteurs majeurs. Et je rappelle ici que les Wazalendo ne sont pas partie du gouvernement. Les Wazalendo n'ayant pas été associés, ça pose un problème. C'est ce qu'on a constaté.
Et donc, autant on a consulté le M23 et le gouvernement congolais, autant on devait aussi consulter les Wazalendo.
Oui, puisque toutes les parties en conflit, les Wazalendo, c'est l'émanation de la population. C'est une force qui existait même avant que ce gouvernement ne soit là. C'est une entité à part. Rappelez-vous que lorsque la communauté internationale a voulu chercher la paix durable, on a prévu deux processus. Le processus de Luanda, où le gouvernement de la République devrait rencontrer le gouvernement rwandais, et le processus de Nairobi, où les groupes armés, notamment les Wazalendo et l'AFC M23, devraient rencontrer le gouvernement de la République. Mais par une baguette magique, le lendemain, nous nous sommes réveillés, on retrouve qu'on a déplacé le processus de Nairobi vers Doha. Et seulement un seul groupe et une seule entité a été prise en compte, notamment l'FC M23, en oubliant les Wazalendo. Alors que quand vous allez partout, sur les fronts militaires, la première ligne de front, ce sont les Wazalendo.
Et donc, vous voulez attribuer la poursuite des combats aux Wazalendo?
Non, les Wazalendo ne sont pas concernés par les cessez-le-feu. C'est tout à fait évident. Les Wazalendo n'ont pas violé ce cessez-le-feu. Nous ne sommes
pas concernés par les
cessez-le-feu. Mais lorsque nous sommes attaqués, nous réagissons.
Merci Augustin Bissimoi. Vous êtes secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVSE en sigle, parti de l'opposition extra-parlementaire. C'est quoi votre lecture du non-respect du cessez-le-feu proposé par le président angolais João Lourenço?
Je me dis que si le cessez-le-feu n'est pas respecté, et donc il s'agit là d'une faiblesse criante de mécanismes de suivi. Et je me dis, dès lors déjà, qui se pose un problème sérieux de mécanismes de suivi, cela va engendrer également l'absence de mesures contraignantes. Il faut aussi dire qu'il y a un problème parce que le gouvernement congolais, est-ce qu'il a le contrôle sur tous les groupes armés qui opèrent, n'est-ce pas, dans la partie Est? Je me dis qu'il y a un problème par rapport à ça. Même si le gouvernement congolais, à travers les FARDC, peuvent dire « nous respectons les cessez-le-feu », il faut retenir qu'il y a d'autres groupes, évidemment, si lequel le gouvernement n'a pas assez de contrôle. Et je suis choqué lorsque l'honorable Willy Meshiki dit que les Wazalendo ne sont pas concernés par les cessez-le-feu. C'est déjà un mauvais signe parce que l'honorable justifie de manière dangereuse la violation des cessez-le-feu et donne tant soit peu raison aux agresseurs de dire « voilà, ce n'est pas nous qui avons violé ».
Henri Pacifique Maëla, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Et donc, il est tout à fait logique que les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir violé ce cessez-le-feu?
Tout à fait. Et ça, nous savons que c'est factuel. Au niveau du baromètre sécuritaire du Kivu,
Nous documentons les faits, les incidents sont là. Autant il y a eu violation des cessez-le-feu immédiat du côté congolais. C'est vrai qu'à un certain moment, les FARDC se sont retenus et ont respecté les cessez-le-feu. Mais par proxy, il y avait toujours des hostilités qui étaient déclenchées par Ouazalendo. Vous vous souviendrez, les frappes aériennes du 15 octobre, c'était le même jour qu'on signait l'accord de paix entre le gouvernement congolais et le M23 à Doha. De la même façon, le M23 a été aussi à la base des violations à multiples reprises de cessez-le-feu, et ce, depuis 2024, ou peut-être même un peu avant cela. Dire que les Ouazalendo n'ont jamais été consultés, ne sont pas tenus à respecter les cessez-le-feu auxquels s'engage la République démocratique du Congo, c'est effectivement ne pas s'inscrire dans cette logique de la paix.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce numéro du Dialogue entre Congolais sur www.radiookapi.net et aussi sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Alain Rong, mis en onde par Pierre Diassinois. Excellente journée.